après Lubumbashi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Le cancer est une cause majeure des décès dans le monde. Chaque année, des gouvernements des États, au travers des programmes et autres moyens, luttent pour faire reculer la charge de cette maladie. En marge de cette journée mondiale contre les cancers célébrée le 4 février de chaque année, Parole aux auditeurs fait les débats aujourd'hui sur la prise en charge des cas de cancer en République démocratique du Congo, avec comme question principale, quelle est la situation de prise en charge des cas du cancer chez vous? Participez donc en direct à cet échange et partage en composant le 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39. Sur notre page Facebook, vous pouvez également y déposer vos commentaires et préoccupations. Toute l'équipe de production est là pour vous servir. Tissé Poutou et Piero Elamegi assurent la réalisation de ces programmes, mis en onde par Sylvain Matundu. J.R. Lungebo coordonne et présente ces magazines, supervisés par Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungebo.
Nous avons associé à ces débats Dr Pierre Joseph Ingala, cancérologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Docteur, vous êtes avec nous en ligne, bonjour.
Bonjour.
Actuellement, docteur, à quel niveau se situe la prise en charge des cas de cancer en République démocratique du Congo?
Les difficultés de la prise en charge sont nombreuses. Mais cela se résume plus au fait que les malades se présentent souvent à l'hôpital avec un stade de cancer très avancé. Et cela est attribué dans la grande majorité des cas à un manque d'information ou une information erronée que ces malades reçoivent sur la pathologie qu'on appelle cancer. En plus de ça, il y a aussi le problème technique que nous avons dans notre pays. Parce que le cancer, le traitement du cancer du col nécessite un plateau technique adapté. Il faut pour cela des moyens de traitement chirurgical qui soient adaptés, des moyens de radiothérapie et aussi la chimiothérapie. Choses qui ne sont pas toujours facilement réalisables dans notre pays. Et en plus de ça, il y a aussi un autre problème qui tient compte du niveau de vie de notre population en général et de la plupart des malades qui nous arrivent. Ce sont des malades qui ont un niveau de vie bas, si bien qu'ils ont souvent des difficultés pour pouvoir participer à la prise en charge du point de vue de paiement, de frais, des actes médicaux, des paiements, des médicaments qu'il faut et aussi le fait que la plupart des médicaments dont nous avons besoin ne se retrouvent pas dans notre pays. Il faut chaque fois, quand bien même il y a quelques possibilités de pouvoir les obtenir, il faut chaque fois se référer à nos collègues par des voies qui ne sont pas tout à fait officielles pour pouvoir les obtenir à partir d'Europe. Voilà un peu les points essentiels qui pourraient expliquer les difficultés que nous avons pour mieux prendre en charge le cancer du sein dans notre pays, le cancer gynécologique et le cancer en général dans notre pays.
Oui, voilà. Eh bien, vous avez évoqué l'aspect technique. Hein. Sous notre cieux, comment ça marche? Est-ce que c'est le gouvernement qui prend en charge, en fait l'entièreté de la lutte, ou carrément ce sont des particuliers qui s'investissent?
Le cancer est une maladie grave et c'est une maladie qui évolue souvent de façon chronique et qui demande beaucoup, beaucoup de moyens. Vous êtes affecté par le cancer aujourd'hui, cela signifie que vous resterez collé à votre médecin jusqu'à la fin de votre vie. Parce qu'il faut toujours des suivis, parce que ce sont des pathologies qui sont caractérisées par des récidives. C'est pourquoi il faut toujours être collé au médecin pour le suivi pour toute la vie. Alors, puisque cela demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais pour un individu seul, c'est parfois difficile de pouvoir supporter les dépenses qui nécessite cette prise en charge. C'est pourquoi, dans certains pays, les gens se sont organisés en mutuelle. Il y a des ONG qui aident les malades à, à pouvoir supporter le coût de ce type de prise en charge. Bien sûr, il y a des gouvernements qui participent dans certains pays, ne serait-ce qu'au niveau de la vulgarisation, de ce que le malade se présente à l'hôpital à temps pour faciliter la prise en charge, et aussi par la mise, la disponibilisation de médicaments, et parfois aussi, le gouvernement prend en charge certains indigents, chose qu'on ne trouve pas, ce type d'organisation, on ne trouve pas.
Ici au pays.
Pas dans le tiers monde et aussi dans notre pays.
Oui, parce qu'aujourd'hui, si nous observons de nos différents centres hospitaliers de référence, si nous voulons, on peut parler des hôpitaux de référence, on se rend compte que quelques-uns parmi eux ne l'en comptent même pas, où il n'y a même pas de service de prise en charge des cas de cancer, notamment pour organiser les services, comme vous l'avez dit, la radiothérapie ou la chimiothérapie. Et là, c'est tout un problème.
Oui, mais au fait, c'est un problème, comme vous le soulignez. Parce que d'abord, il faut d'abord former l'homme. Former un cancérologue, ce n'est pas une aventure bon marché. C'est pas facile. Il faut que la personne puisse terminer d'abord les études de médecine générale, qu'il puisse faire sa spécialisation, ensuite une autre spécialisation sur la cancérologie. Et encore, on ne se limite pas là. La cancérologie a plusieurs orientations. Tu ne peux pas être en même temps cancérologue et s'occuper des enfants, s'occuper des adultes, s'occuper de problèmes d'ORL par exemple, de cancer du sang par exemple. Non, il y a des orientations, des sous-spécialités telles que quand on est cancérologue, on peut être gynécologue cancérologue en ce moment-là. On s'occupe spécialement des cancers gynécologiques. Donc c'est ça le premier problème d'abord, la difficulté de former l'homme. Et en plus de ça, il faut mettre à la disposition de la personne formée des moyens nécessaires pour pouvoir mieux traiter le malade qui lui arrive. Mais qui doit faire ça si ce n'est pas le gouvernement?
Oui.
Il y a certains privés qui se débrouillent tant bien que mal, mais c'est le gouvernement qui devait être à l'avant-plan de la lutte pour améliorer la prise en charge des cancers.
Oui, docteur,
l'équipement pour la chirurgie.
Oui.
Mais c'est un équipement onéreux. La radiothérapie, ça n'existe pratiquement pas dans notre pays. Il y a certains privés qui se débrouillent. Bon, ben, vous savez, c'est pas facile. C'est le gouvernement qui devait être à l'avant-plan de cette liste.
Oui, actuellement, professeur, oui, professeur, s'il vous plaît, si vous pouvez nous faire une idée très claire. Actuellement, en RDC, on compte combien de privés ou qui offrent ces services de prise en charge des cas de cancer. C'est vrai que d'aucuns ont toujours parlé de deux centres qui, normalement, offrent ces services. Est-ce que vous confirmez cela? À Kinshasa, tout comme à Lubumbashi.
Bon, dans notre pays, nous avons la possibilité de faire la chirurgie qui est l'axe principal de la prise en charge des cancers. Il y a beaucoup de bons médecins, de bons chirurgiens qui peuvent s'occuper de l'axe chirurgical. Il y a aussi l'axe médical qui constitue la chimiothérapie. Mais là, la difficulté, c'est que les produits qu'on utilise, qu'on appelle les antimitotiques, ne sont pas tous disponibles. On est parfois obligé de passer les commandes pour que ça vienne de l'étranger. Mais à part ça, il y a la radiothérapie. C'est là où nous avons plus de difficultés. Dans notre pays, il n'existe pas un grand centre de radiothérapie à proprement parler. Ici, à Kinshasa, nous avons le docteur Soulou avec son centre qui, malgré toutes les difficultés, il essaie quand même d'aller de l'avant. Il y a un centre de radiothérapie chez lui qui fonctionne, mais je crois que c'est une personne qui devait être appuyée, qui devait être soutenue par le gouvernement pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité dans le traitement radiothérapie.
Mmh.
Donc, à part ça, il a existé dans le passé quelques centres où la radiothérapie s'est pratiquée, mais à l'heure actuelle, par exemple, à Kikagi, ça s'est pratiqué, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas vous affirmer, mais toutes les informations que nous avons sont telles que ce centre-là
ne peuvent plus opérationnels.
Les services de radiothérapie comme il faut.
Voilà. Alors, docteur, avant d'accorder la parole à nos auditeurs, est-ce que pour une lutte efficace, faudrait-il instituer un programme national pour répondre à ces besoins, pour une lutte contre le cancer?
Bon, il y a une organisation privée, hein, qui est la LINAC, qui existe, mais c'est une organisation qui est encore au stade embryonnaire, donc ça n'a pas encore atteint sa maturité. Donc, on a encore des difficultés de fonctionnement, des difficultés dans l'exécution des plans de recherche que nous avons, mais nous faisons des efforts pour aller de l'avant. Au niveau national, il n'existe pratiquement pas un programme national de cancer qui devrait fonctionner comme d'autres programmes que nous connaissons. Donc, il y a donc des efforts à faire à ce niveau-là. Tout le monde doit se mobiliser, et le gouvernement, et le privé, et n'importe qui, donc parce que le cancer concerne tout le monde.
Voilà. Et si vous pouvez rapidement nous donner quelques cas de cancer que nous observons ou nous enregistrons dans notre pays. C'est vrai, les femmes connaissent mieux les cancers de l'utérus, les cancers de col de l'utérus. Il y a ceux qui aussi ont une idée sur les cancers de sein. Mis à part les deux, est-ce qu'il y a d'autres cas de cancer qu'on peut avoir, qu'on peut enregistrer?
Oui. Le cancer peut concerner toutes les parties du corps. On peut avoir les cancers au niveau de la tête, au niveau du sang, au niveau du thorax, au niveau des viscères, au niveau de la sphère génitale, au niveau des bras. Donc au niveau du squelette, le cancer peut atteindre n'importe quelle partie du corps. Et puisque la médecine est compartimentée, il y a des spécialisations, il y a des cancers. Tous ces cancers-là peuvent être divisés en différents groupes. Il y a le groupe de cancers gynécologiques, le groupe de cancers médicaux, le groupe de cancers pédiatriques et le groupe de cancers qui relèvent purement de la chirurgie. En ce qui concerne la gynéco, nous avons le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le cancer des ovaires, le cancer du col utérin, nous avons le cancer de la vulve. Tous ces cancers-là, ils n'ont pas la même importance d'un milieu à un autre. Dans notre milieu, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du col, suivi du cancer du sein. Les autres cancers, ils existent bien sûr, mais ils sont moins fréquents. Dans d'autres disciplines, il existe également des cancers, et avec des statistiques bien déterminées, des statistiques spécifiques et qui varient aussi d'un milieu à un autre.
081-890-6315 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le premier auditeur qui est en ligne, Galvani, qui est en Bujimaï, et Maître Machaka à Lubumbashi. Bonjour Galvani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi et bonjour l'invité.
Voilà, nous l'avons dit en début de cette émission, le cancer est une cause majeure des décès dans le monde et chaque année, des gouvernements des États, au travers des programmes et autres moyens, luttent pour faire reculer la charge de cette maladie. Alors, en marge de cette journée mondiale contre les cancers, célébrée le 4 février de chaque année, comme aujourd'hui, parole aux auditeurs fait les débats par rapport à la prise en charge des cas de cancer en RDC. Vous venez de suivre notre invité tout à l'heure qui a brossé pratiquement la cartographie des cancers, la prise en charge des cancers en RDC. Galvani, quelle est la situation des prises en charge de cette maladie en Mbujimayi chez vous?
Bon, à mon humble avis, à ce que je cherche aussi, la prise en charge ici en Mbujimayi est presque nulle. Comme le docteur lui-même a dit qu'il n'y a que ces deux centres qui sont soit à Lubumbashi ou à Kinshasa, ici en Mbujimayi, c'est vraiment rare pour trouver un centre où ça n'existe presque pas. Et pour moi, comme proposition,
oui, allez-y.
Je pouvais proposer que le cancer est une maladie au même titre que les autres. Donc, un programme national de lutte contre cette maladie aussi peut faciliter aussi la prise en charge, la lutte, et aussi la sensibilisation. Et comme il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas cette maladie, qui ne savent pas comment ça se transmet, comment lutter, comment se fait la prise en charge, tout ça. Et aussi, on peut procéder par des mutualités, comme le docteur lui-même a dit, à proposer. Ça pourrait essayer de réduire un peu la situation.
Voilà, donc vous partagez l'avis qu'il faudrait mettre ou instituer sous pied un programme national de lutte contre les cancers dans notre pays. Aussi, vous demandez à ce que des campagnes de sensibilisation soient directement liées à ce programme où on noterait les causes de ces cancers, le moyen de prévention pour aider tant soit peu la population à s'informer davantage par rapport à ça. Merci Galvani. Maître Machak, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Gier. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Quelle est d'abord la situation chez vous et qu'est-ce que vous proposez comme solution pour une lutte efficace de cas de cancer dans notre pays?
Merci beaucoup, M. Gier, de m'avoir accordé cette opportunité. Vous savez, ici chez nous, pour ce qui est de la prise en charge, en tout cas, la situation est presque nulle puisque on ne voit pas beaucoup de centres ou bien centres là qui s'en chargent de la prise en charge des gens, des personnes souffrant avec la maladie de cancer. Mais la situation en est qu'elle est négligée. Pourquoi nous aimons toujours combattre les conséquences au lieu d'abord de combattre la cause de la maladie de cancer? Il faut savoir d'abord la provenance. Qu'est-ce qui provoque la cancer à la population? C'est ce que notre gouvernement devrait d'abord s'attirer afin de diminuer un peu les taux de cancer dans notre pays qui provoque des morts du jour au jour. Aujourd'hui, vous savez, M. Gérard, selon certains médecins, ils disent que certains cancers proviennent des produits naturels, des produits traditionnels qu'on vend aujourd'hui un peu partout dans nos filets. Des produits sans dose, l'excès de ces produits-là crée souvent des cancers au sein de la population. Mais notre gouvernement ne dit rien à propos de ces vendeurs-là des produits traditionnels qui empoisonnent souvent la population, M. Gérard. Prendre les discussions pour la prise en charge, c'est une bonne chose, mais le gouvernement doit d'abord s'attirer sur les conséquences, les causes du cancer.
Maître Machaka, je crois que pour votre information, à l'époque, il a existé donc dans notre pays un centre national de recherche sur les cancers. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est l'ombre de lui-même. Ça n'existait pas, il n'est plus opérationnel. Mais je crois qu'à ce niveau, le gouvernement est en train de voir dans quelle mesure relancer cela. Nous avons d'ailleurs à notre possession les informations selon lesquelles il y a quand même de spécialistes, certains spécialistes qui ont demandé de relancer les activités de ces centres. Mais la plus grande question aujourd'hui, c'est vrai, est-ce qu'il faudrait simplement relancer ces centres ou encore faut-il initier certains programmes?
Relancer ces centres-là, c'est une bonne chose, M. Germain.
Et proposer certains programmes.
L'information aussi au sein de la population, c'est une bonne chose, puisque pour se rendre compte que quelqu'un souffre du cancer, M. Germain, c'est tout un problème. Puisque aujourd'hui, on parle souvent des boutons qui sortent sur la peau, et ainsi de suite. Pour que ça commence à se manifester, c'est-à-dire la maladie est déjà c'est par pied dans le corps de la personne. Alors, il fallait d'abord que nos médecins, messieurs, en complicité avec notre gouvernement, sachent comment informer ou bien sensibiliser la population afin que la population soit informée que s'il y a des symptômes, c'est directement la cancer qui se manifeste et directement il faut aller voir les spécialistes afin de prévenir la propagation de cette maladie dans les corps, monsieur.
Voilà, vous revenez comme votre prédécesseur à cet aspect de sensibilisation pour permettre à ce que les populations puissent se faire une idée très claire sur les causes et les moyens de prévention. Merci, Maître Machaka. Gertrude, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, Gertrude, vous êtes dans la ville province de Kinshasa. Voilà, Gertrude, vous avez suivi tout à l'heure notre invité, ainsi que les deux auditeurs qui vous ont précédé. La grande question aujourd'hui à Kinshasa, c'est vrai, comme l'a souligné notre invité, il y a au moins quelque part où les Kinois peuvent avoir accès à la radiothérapie par rapport à la maladie, mais ailleurs le problème se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec un seul centre qui offre ces services, est-ce suffisant pour vous?
Merci beaucoup, moi je voulais juste dire que je voulais poser la question au docteur. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette situation? Peut-être je n'ai pas simplifié dans ce contexte de cancer.
Voilà, vous sortez très mal, là vous saisiez à peine, Gertrude, vous êtes avec nous?
Allô?
Oui, si vous pouvez hausser un peu votre ton là, parce qu'on vous saisit à peine.
Allô, je voulais dire ceci.
Oui.
Je voulais poser la question au docteur.
Oui, allez-y.
Qu'est-ce qui est à la base de cette attitude du gouvernement à ne pas s'impliquer dans cette situation?
Bon, je crois que le professeur, c'est un spécialiste, hein, il peut pas répondre à la place du gouvernement.
C'est ça, je continue.
Oui.
C'est un problème très sérieux parce que nous, dans notre coin, j'appelle Dombine.
Oui.
Pour l'année passée, l'année 2012, nous avons eu connu 35 cas dans notre quartier.
35 cas.
Ils sont morts. C'est seulement une personne qui a souffert. Cette personne a suivi la chimiothérapie, elle a terminé. Elle veut suivre maintenant la radiothérapie. Là, je voulais savoir combien de temps il est après la chimiothérapie.
Voilà, vous posez une question très pertinente et vous nous avez fait une révélation avec des cas, mais malheureusement, là, vous sortez très mal. Je crois que, Madame Gertrude, on pourrait vous relancer plus tard pour permettre à ce qu'on ait une communication très fluide, pour qu'on saisisse très bien votre question. Mais à tout à l'heure, Madame Gertrude. On prend plutôt Docteur Richard, nous restons dans la même ville, Gertrude qui nous a appelé d'Mbinza à Kinshasa, et Docteur Richard qui est également à Kinshasa. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs et bonjour au professeur.
Et qu'est-ce que vous constatez par rapport à la prise en charge dans la ville de Kinshasa, la prise en charge des cas de cancer?
Oui, par rapport au dire du professeur, je trouve que la prise en charge est faite en aval et non en amont. En amont, ça signifie on devait sensibiliser la population par rapport à ce qu'elle doit éviter pour être loin de l'éclosion des cancers. La littérature en parle, mais chez nous ici, on agit en aval. C'est-à-dire quoi? Prenons, par exemple, nous savons que les produits chocolisants ou les produits qui entraînent l'éclaircissement de la peau diminuent l'immunité et entraînent l'éclosion des cancers. Ce sont l'hydroquinone, les corticoïdes, etc. Personne n'en parle dans le sens de dire c'est pas bon. Tout le monde ferme la bouche. Et ceux qui en parlent comme nous, peut-être à travers la radio Okapi, on nous insulte, on nous poursuit. Par exemple, quand vous allez aux cliniques universitaires, là où il y a des professeurs, il y a des boissons non bio que même les enfants consomment. Les malades consomment ça. Nous connaissons la quinine. Nous connaissons le diazépam, mais les colorants qu'on vend dans les bouteilles qui sont consommées par les malades créent une deuxième molécule en association avec la quinine. On ne connaît pas les effets. Personne n'en parle. Quand nous parlons par exemple des produits alimentaires non appropriés à la santé humaine, même animale, tous ces produits boostés sur la croissance, par les hormones de croissance, par différents produits, tous les produits végétaux qui contiennent les pesticides, qui contiennent les engrais non maîtrisés, parce que personne n'a suivi, on nous insulte. Moi, je parle comme éleveur, comme cultivateur bio et comme entrepreneur agricole de la filière transformation et conservation,
voilà. Oui,
des produits agroalimentaires.
Docteur, oui. Richard, docteur Richard, si on peut aller droit au but,
oui.
on comprend que vous insistez de manière à ce que, disons, les autorités puissent prendre plutôt des mesures en amont et non en aval.
Non,
c'est-à-dire interdire,
avant,
par exemple,
avant que les autorités n'en prennent,
oui.
C'est nous, les techniciens en la matière, qui devons commencer à agiter la toile.
Tout à
nous
fait.
Nous ne faisons pas ça. Et puis il n'y a aucune collaboration, à moins qu'on me coupe la bouche ou la langue, entre les médecins humains et les autres corporations qui offrent à manger à la communauté. Les agriculteurs, etc., les éleveurs, etc., il n'y a pas de rapport. S'il y a des rapports, c'est pour s'insulter. Pour chercher.
Donc ça pouvait, s'il y a des bons rapports, les rapports sont au beau fixe, je crois que ça pourrait résoudre quand même ces problèmes.
Mais
parce
oui,
que vous avez évoqué beaucoup
par rapport aux causes. Moi, quand j'en parle comme
oui,
entrepreneur agricole, j'ai été formé par les Canadiens dans ce pays.
Tout à fait. Donc, il faut travailler en synergie, c'est ce que vous
pouvez. Quand j'en parle, on m'insulte. On dit, tu as vu ça où?
Voilà. Docteur Richard, donc là, nous retenons que vous insistez à ce qu'il y ait une collaboration, qu'au niveau de médecins, des spécialistes agroalimentaires et des médecins humains, qu'il y ait quand même une collaboration parce que les causes sont multiples, hein. Les causes peuvent être alimentaires, ça peut être aussi médicamenteuses. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment un rapport pour éviter à ce qu'il y ait beaucoup de cas de cancer. Parce que déjà, la prise en charge pose de sérieux problèmes sur le plan technique, comme l'a dit notre invité, et aussi le manque de sensibilisation. Vous êtes revenu aussi sur ça. Merci, docteur Richard. Edgar, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. Quelle est la situation chez vous, Edgar, et quelles sont les propositions que vous faites pour une lutte efficace de cas de cancer en RDC?
Les problèmes sont vraiment les mêmes. En RDC, monsieur Guilherme, le cancer qui était jusque-là considéré comme une maladie dégénérative et parfois héréditaire est en train de prendre vraiment d'autres formes. Et aujourd'hui, on parle du cancer du col utérin chez la femme qui est considérée aujourd'hui comme une IST. C'est-à-dire qu'on détermine les HPV, le human papillomavirus, parmi les facteurs de risque. C'est difficile vraiment de parler de la prise en charge du cancer dans nos milieux, surtout à Kananga, parce qu'on ne dispose vraiment ni de moyens thérapeutiques adéquats, ni assez de spécialistes, surtout lorsque la maladie prend une forme, la forme est bénigne, monsieur le journaliste. La plupart des personnes viennent consulter en retard, c'est ce que vraiment nous déplorons bien. Ce que j'ai constaté dans notre pays, c'est que on a créé des programmes spécifiques pour lutter contre certaines maladies, ce qui est une bonne chose. C'est le fait qu'on équipe d'autres maladies qui ne sont pas vraiment moindres, qui ne sont pas prises en charge. Donc il faut vraiment que ce qui nous vient en aide dans différents programmes puissent financer le système de santé dans sa globalité au lieu de spécifier certaines maladies et d'éviter d'autres maladies comme le cas du cancer dont nous parlons aujourd'hui. Alors, pour passer aux propositions, M. Gilles, il faut que le gouvernement puisse s'impliquer. On connaît beaucoup de spécialistes à la matière. Comme il y a un organisme, il y a des spécialistes à la matière, M. Gilles. Et qu'on le confère d'autres, vraiment les matériels adéquats pour la prise en charge. En même temps, que l'on puisse chaque fois organiser des campagnes de sensibilisation des masses pour les amener à reconnaître la maladie, à consulter à temps, parce que le pronostic du cancer est favorable quand il est découvert précocement. Vous allez voir que quand la journée de lutte contre le cancer va passer, on va cesser de parler de cela. Donc, il faut sensibiliser la population pour que ce dernier abandonne certaines habitudes qui favorisent le survenir de certains paysages de substances corrosives sur la peau et les situations abusives des médicaments, sans oublier l'alcool et le tabac. Et je termine en posant une question à notre invité, M. Gilles.
Oui,
en rapport avec le cancer des poumons, quel est le risque, même en termes de pourcentage, qu'encourt la personne qui fume en rapport avec celle qui ne fume pas? Je parle de tabagisme passif et tabagisme actif.
Merci beaucoup, Edgar. Nous retenons deux choses. Premièrement, le financement du système de santé dans sa globalité. Et là, ça appelle même le débat sur le financement de l'Institut de santé publique au niveau de Camplis, qui fait des recherches, qui mène des recherches dans sa globalité, si vous répondez vos propres mots. Et vous insistez également, comme vos prédécesseurs, sur la campagne de sensibilisation des masses autour de la maladie, parce que la maladie, c'est vrai, elle est redoutable, mais bon, si on mettait quand même à disposition de populations les informations y afférentes, ça pourrait les aider à pouvoir se s'attirer de l'affaire. Le cancer des poumons, c'est la question que vous posez sur les risques en termes de pourcentage. Merci Edgar d'avoir appelé des Kananga. Nous revenons ici à Kinshasa avec Kabongo qui est en ligne. Bonjour Kabongo.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs. Edgar, tout à l'heure, venait de parler de financement du système de santé dans sa globalité. Ça pourrait aider l'Institut de la santé publique au niveau de campus de l'Université de Kinshasa de pouvoir se doter des moyens conséquents pour faire des recherches sur la maladie. Et aussi, comme d'autres prédécesseurs, Edgar est revenu sur la campagne de sensibilisation des masses qui devait en principe être faite au travers des programmes qu'on peut initier. Et vous avez la parole, Kabongo.
Merci en tout cas à la radio Capi pour la grandeur et la hauteur du débat. Cela montre que ce ne sont pas les hommes qui nous manquent. Avec l'habitude, nous allons voir qu'il y a certaines choses qui peuvent passer facilement. Le mal dans notre pays, c'est le manque de prévision, le manque de programme dans le domaine qui concerne la sensibilisation et aussi la vulgarisation sur certaines connaissances minimales des catastrophes évitables. La prise en charge du cancer, moi je pense, doit passer par la démystification. Vous voyez déjà le thème de l'année qui est dissiper les mythes, préjugés et les fausses rumeurs. Moi je pense que la prise en charge du cancer passe par la démystification de cette pathologie. La vulgarisation de moyens de prévention afin d'éviter l'aggravation de la maladie lorsque celle-ci est dépistée tardivement. Dans le programme de lutte, moi je pense, il va falloir d'abord lutter contre l'ignorance sur cette maladie et surtout dans sa diversité en rapport avec les différents organes du corps, du corps humain, qu'elle peut affecter. Étant donné la facilité avec laquelle les jeunes peuvent appréhender les choses, il serait mieux que quelques notions de base soit donné dès le bas âge aux plus jeunes qui facilement peuvent pérenniser la lutte. Mmh. En plus de l'enfant, au centre de la sensibilisation, selon moi d'ailleurs, il faudrait aussi ajouter et mettre un accent sur la sensibilisation de la femme, qui est non seulement donneuse de vie, mais aussi gestionnaire d'une grande partie de notre vie, à partir de la naissance, passant par la croissance et toutes les étapes. C'est elle qui gère même notre nutrition. Parce que vous êtes sans ignorer que la plupart de ce genre de maladies est aussi lié à de nouvelles habitudes alimentaires au détriment de l'ancienne habitude qui était plus naturelle et nous protégeait déjà et nous immunisait contre les pathologies qui étaient autrefois considérées comme occidentales. Donc le cancer étant une maladie difficile à traiter avec une thérapie coûteuse, et comme le professeur l'a dit, même la formation de médecins qui doivent s'occuper de ça est aussi chère. J'aurais souhaité que l'État dispose des bourses spéciales pour la recherche et surtout la formation dans toutes les orientations des cancérologues, parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire, c'est pas facile. Donc, je vais terminer par une question au professeur. Oui. Sur la totalité des médecins formés dans nos universités, quel est le rapport des cancérologues sur les 100% formés? Combien de médecins cancérologues sont formés lorsqu'il y a une promotion, par exemple? Voilà la clé du problème.
Merci beaucoup, Kabongo, d'avoir appelé. Et nous rappelons que vous êtes à Kinshasa. Vous êtes revenu sur la campagne de sensibilisation de masse en mettant un accent sur la femme qui est donneur de la vie et gestionnaire de la vie qui doit être mise au centre de cette campagne. Merci beaucoup. Maître Kabongo, Monsieur Kabongo, Madame Gertrude, on revient à vous avant de réaccorder la parole à notre invité. Vous êtes en ligne, Madame Gertrude. Je crois que cette fois-ci, la communication s'est améliorée, je crois.
Oui, ça va mieux, ça va mieux.
Voilà, alors vous avez dit il y a 35 cas cette année qui ont été détectés là où vous vivez, à Mbinza, à Kinshasa.
Je disais que dans mon quartier, je suis à Mbinza. Nous avons connu 5 cas de cancer.
Oui.
Et 4 personnes sont mortes de cancer. Il y a une seule personne qui a. Et cette personne-là a subi effectivement même de la chimiothérapie. Et maintenant, c'est la radiothérapie qui va intervenir. Je voulais poser la question au médecin. Est-ce que la radiothérapie est nécessaire pour le traitement de la cancer après la chimiothérapie? Et si faire intervenir la radiothérapie. Et après combien de temps après la chimiothérapie?
Merci beaucoup.
Et je déplore aussi, je déplore le comportement du gouvernement, ce n'est pas simple. Parce que le cancer, hier, c'était loin de nous, aujourd'hui, le cancer est dans nos murs. Il attend que tout le monde puisse en mourir ou quoi? Parce que déjà, avec cette situation, je peux le permettre aussi.
Oui, est-ce que Madame Gertrude, vous partagez l'avis de Docteur Richard qui parle de mode de vie, mode alimentaire actuellement et aussi l'application de certaines lotions contenant l'hydroquinone et voilà des produits cosmétiques.
D'accord avec le médecin.
Oui.
Mais là, il faut que les gens soient sensibilisés. La charge incombe au gouvernement. On ne le sent pas dans la situation.
Mais donc il faut l'interdiction formelle de la commercialisation et de l'utilisation de ce produit dans notre pays.
Moi, je suis contre la commercialisation et l'utilisation des
produits cosmétiques.
Mais tout cela est propre au gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait pour prévenir cette maladie? Pourquoi il n'interdit pas à ces gens-là qui vendent les produits de continuer à vendre ces produits pour mettre la population?
Voilà. Merci beaucoup, Madame Gertrude. 081-890-6315. Vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires et préoccupations dans notre courriel pa@radiocapi.net.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Docteur Pierre-Joseph Ingala, vous êtes cancérologue aux cliniques universitaires. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui comme notre invité. Vous avez suivi les uns les autres. Il y a des propositions des part et d'autre et il y a également des questions directes qui vous ont été posées. Vous avez la parole, docteur.
Merci beaucoup. Il y a d'abord une précision qui me semble importante d'apporter.
c'est que le cancer, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe dans notre pays. Le cancer a toujours existé. Mais c'est maintenant que nous commençons de plus en plus à en prendre conscience. C'est là du fait, entre autres, par l'existence maintenant des personnes formées qui ont appris ce que c'est que le cancer et qui peuvent poser son diagnostic. Ces personnes qu'on appelle les cancérologues sont des gens qui n'existaient pas autrefois. Dans notre programme de formation à métier dans notre pays, le cursus ne permet pas d'avoir des cancérologues. Quand on termine la médecine générale, on est généraliste. Même toutes les spécialisations que nous faisons sur place, ces spécialisations ne concernent pas les cancers. Pour être cancérologue ou avoir des notions suffisamment avancées en cancer, il faut encore se débrouiller, encore faut-il avoir des moyens pour aller en Europe, faire des stages, des cours, pour être à même de pouvoir prendre en charge correctement le cancer. Vous voyez donc qu'il existe un réel problème, une difficulté réelle pour la prise en charge du point de vue des personnes, des acteurs de traitement de cette maladie. Deuxième chose, il y a le fait que les cancers, les causes des cancers ne sont pas très très bien connues. Les mécanismes par lesquels ces causes entraîneraient ces cancers ne sont pas très bien maîtrisés non plus. Mais on connaît au moins les facteurs qui favorisent. C'est-à-dire, ce sont des conditions dans lesquelles les cancers sont le plus fréquemment retrouvés. Puisqu'on connaît ces conditions-là, donc il y a moyen donc de les éviter. C'est ainsi qu'on parle de la prévention primaire. Mais cette prévention-là, ça demande des moyens. Si par exemple, on se dit, bon, on doit faire des campagnes de sensibilisation en ciblant certains groupes de population. Par exemple, on peut se dire, bon, aujourd'hui, on décrète une sensibilisation chez les femmes militaires, par exemple. Mais on ne peut pas y aller avec c'est des mains, c'est des pieds. Et il faut des moyens pour cela. S'il faut une sensibilisation à grande échelle, il faut, par exemple, avoir des tranches dans les médias. Mais cela demande des moyens. Ce n'est pas un individu qui peut faire ça. Donc, c'est pour dire que, quant à la prévention, le gouvernement doit se positionner, il doit occuper la place centrale, il doit être l'acteur qui doit pouvoir mobiliser tous les autres pour que les choses aillent de l'avant. Ce ne sont pas des individus. En ce qui nous concerne, nous avons eu à faire quelques campagnes de sensibilisation dans certaines corporations, dans certaines églises, par exemple, nous avons eu à le faire, mais ça nous a coûté excessivement et les résultats, nous pouvons vous le dire que nous les gardons encore, on ne sait pas les mêmes, on ne sait même pas les publier. Donc nous avons un réel problème de la sensibilisation qui reste malgré tout un acte très important car le traitement du cancer pose des problèmes. Une fois qu'on a un cancer qui est déclaré, qui est invasif, je peux me permettre de dire qu'on ne peut pas être guéri de cela, mais on peut être stabilisé. C'est-à-dire que pendant un long moment, on peut passer sa vie sans aucun problème et puis être utile pour soi-même et pour les autres pendant ce temps aussi. Mais quand on a le cancer à un stade débutant, la prise en charge peut être efficace et ça peut se confondre à la guérison. Donc oui. Vous voyez que malgré tout, même si nous ne pouvons pas la chimiothérapie, même si nous pouvons parler de la radiothérapie, même si nous pouvons parler de la chirurgie, le plus important, c'est la sensibilisation, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Et j'appuie encore là-dessus. J'espère bien que nous sommes suivis par les décideurs, les gens qui peuvent mettre des moyens à notre disposition pour qu'on puisse aider d'une façon ou d'une autre notre population et lutter efficacement contre le cancer.
Voilà, il y a Gertrude qui a parlé, qui nous a révélé 5 cas qu'on a dû détecter ici sur place à Kinshasa, notamment à Binza. C'est vrai, il y a un qui s'en est tiré d'affaire après une chimiothérapie. Maintenant, c'est l'étape de la radiothérapie. C'est vrai, elle voulait en avoir un cœur net hein, sur la durée qui doit séparer la chimiothérapie à la radiothérapie.
Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être adoptées. Hein. Donc, ça dépend plus de son cas et des informations que le médecin a retenues de la consultation qu'il a faite en lui. Donc, il y a des situations où on peut faire concomitamment et la radiothérapie et la chimiothérapie. Il y a des situations où on peut alterner, et il y a des situations où on peut uniquement adopter la chimiothérapie, et d'autres situations où on peut uniquement faire la radiothérapie. Donc, tout dépend du cas en présence. Le médecin peut se dire, bon voilà, devant un tel cas, puisque la malade présente tel élément, voilà la stratégie qu'elle devait adopter. Il faut autant de séances de radiothérapie et autant de doses qu'il faut lui administrer. Donc, on ne peut pas d'emblée dire que de façon caricaturale, il faut, tous les cas, voilà ce qu'il faut faire. Les voilà. Principes, on sait que la chimiothérapie peut être faite seule, ça peut être associé à la chimiothérapie, ça peut être un complément à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Quant à la façon de le faire, ça dépend du cas au cas. Okay.
Alors, Kapongo a posé une question de précision par rapport au rapport que nous pouvons avoir aujourd'hui sur le nombre de cancérologues. C'est vrai qu'il vous a appuyé en disant que la formation coûte énormément, mais aujourd'hui, sur les 100% des cancérologues que nous avons, quel est le rapport?
Quant au nombre des cancérologues, la situation à Kinshasa, au clinique universitaire de Kinshasa, nous avons un service de cancérologie dans mon département de gynécologie obstétrique. Dans ce service, nous avons le professeur Mbala et moi qui animons cela. Mais dans la situation dans nos universités, ça, je ne peux pas vous le dire avec précision.
Voilà, 081-890-6315, nous avons en ligne Célestin Kachunga, qui est de l'ONG de lutte contre les cancers, et il nous a rejoint dans ces débats. Merci Célestin de nous rejoindre. Bonjour Célestin.
Bonjour monsieur.
Alors, vous luttez contre les cancers depuis un certain temps, vous avez la situation peut-être de cette maladie avec vous, les statistiques. Est-ce que vous pouvez commencer par là, peut-être nous donner quelle est la situation sur le terrain et les niveaux de la prise en charge par rapport à votre constat?
Oui, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir associé à ces débats. Et tout d'abord, avant que je puisse continuer, je vous dis d'abord mes sincères félicitations. Et c'est pas pour rien qu'on vous a décerné d'un diplôme de mérite sanitaire pour avoir sensibilisé durant l'année 2012 la population à ce qui concerne les modes de prévention des cancers du sein, le cancer du col utérus. Bon, à ce qui concerne l'état des lieux, en fait, nous, c'est ASICAS RDC, une ONG des droits congolais, et voilà, ouais. En République démocratique du Congo depuis 2009. Nous sommes là dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein, les cancers du col utérus. Par exemple, à Goma, donc au Nord Kivu, où nous avons plus, parce que nous sommes maintenant ici à Kinshasa, je peux vous donner les rapports sur l'état des lieux, les cancers du sein, les cancers du col utérus dans des zones de santé de Goma et de Kassindi, dans l'année 2011. On a eu à répertorier une affaire de 96 cas de cancer du sein et 216 cas de cancer du col utérus. Vous allez comprendre avec moi que en République démocratique du Congo, le cancer le plus fréquent chez les femmes, c'est le cancer du col de l'utérus, suivi de celui du sein. Mais au niveau mondial, c'est le cancer du sein qui est la première position, suivi du cancer du col de l'utérus. À ce qui concerne les données et la situation le monde, les cancers, chaque année, selon l'UCC, l'Union des patients contre le cancer dont nous faisons membre, les cancers sont diagnostiqués dans... on a réussi une affaire de 12 millions de chaque année et 7,6 millions en mer. Et selon les estimations de l'OMS d'ici 2020, de 2005 à 2015, si on ne tient pas compte des stratégies, le monde entier va rester à faire de 84 millions de morts. Et les plus touchés seront les pays en voie de développement, à l'exemple de notre pays. Voilà que nous approchons à la en 2015, il n'y a pas jusque-là des stratégies nationales de lutte contre le cancer. Donc chez nous, on ne fait que parler de cette maladie lors de sa journée mondiale de lutte contre le cancer, au lieu de mettre les stratégies permanentes. Je remercie, nous étions pour parler avec le ministre de la Santé, avec le docteur Soulou, Ali Apassa, le président de la Ligue nationale contre le cancer. On nous a promis de faire quelque chose lié au cancer, parce que vous allez comprendre avec les données statistiques que je viens de vous dire tout à l'heure, que c'est une maladie qui est, c'est une priorité de priorité, mais on n'en parle pas. Et notre population a meurt par manque de connaissances. Si du moins on mobilisait les gens, les animateurs communautaires pour la sensibilisation. En tout cas, on pourra peut-être enregistrer les cas de cancer, mais on ne peut pas enregistrer les cas de décès, parce que le cancer est guérissable s'il est détecté à temps. Voilà quelque sorte que je pouvais partager avec vous pour ne pas monopoliser la parole.
Mais 84 millions de cas de cancer d'ici 2015, c'est quand même énorme. Et je crois que si c'est l'Afrique ou les pays du tiers-monde pourraient avoir une part très considérable dans ces chiffres, bon, j'imagine avec certains facteurs favorisant le cancer que nous découvrons dans notre pays, le risque est énorme par rapport à nous. Donc je crois qu'il y a des stratégies à mettre en place, comme l'ont dit vos prédécesseurs, c'est la mise au pied ou l'instauration d'un programme de lutte contre la maladie. Merci Célestin d'avoir accepté de participer à ces débats et d'apporter surtout des chiffres comme ça pour nous éclairer davantage. Merci Célestin, à très bientôt. Voilà, on a Olivier qui est à Kikwit. Olivier, vous êtes avec nous, merci de nous rejoindre également. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour, Seigneur. Bonjour.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs, notamment Kabongo, qui a parlé de programmes et aussi de cas de planification, la sensibilisation. Vous avez la parole, Olivier.
Oui, bon, si je dois parler d'abord de Kikwit, je dirais que, au fait, le diagnostic de ce genre de problème est pratiquement inexistant parce qu'il n'y a pas de spécialiste comme l'invité l'a dit. Et je pense que ce n'est pas de la faute de nos médecins. Ils n'ont pas été formés pour ça. Mais il y en a eu, j'ai connu un cas il y a quelques années, un médecin qui a pu diagnostiquer un cancer et qui a dû transférer le malade. Alors, la difficulté c'est quoi? C'est que, en fait, même quand un médecin diagnostique, et s'il se permet de prescrire, les médicaments anticancéreux sont eux-mêmes très dangereux pour le malade. Il faut donc des spécialistes pour qu'on sache gérer les effets secondaires. Alors, il y a un autre problème. Les facteurs favorisants dont on a parlé, je pense que pour le moment, c'est sur ça que nous devons mener notre lutte. Parce que le gouvernement étant pratiquement incapable de faire ce qu'il doit faire, nous avons des histoires de substances cancérigènes qu'on retrouve dans beaucoup de produits que nous recevons de partout, dans les boîtes de conserve que nous ne savons pas contrôler. Et j'en profite pour dire donc que si nous devons lutter contre ces histoires-là, il faudrait qu'on renforce les capacités de l'OFC. Qu'on trouve un autre laboratoire qui pourrait nous permettre d'analyser tous les additifs alimentaires qui sont utilisés à tort et à travers parfois dans beaucoup de nos produits. Alors, il y a des histoires comme le tabac. Dans d'autres pays, on a interdit l'usage du tabac dans les lieux publics. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Vous retrouvez parfois la publicité du tabac, les vendeurs de cigarettes qui vont dans les stades distribuer la cigarette au public gratuitement. Donc, nous allons toujours à contre-courant. Et puis, il y a le plus grand danger, c'est les produits éclaircissants. Je vous donne l'exemple de la ville de Kikwit. Quand vous circulez dans la ville de Kikwit, plus de 40% des boutiques que nous avons ne vendent que des produits éclaircissants à base de corticoïdes, à base d'hydroquinone. Et pourtant, il est démontré depuis très longtemps que ces produits sont des produits qui provoquent le cancer de la peau. Et ça, c'est connu. Donc, le taux du cancer de la peau est en augmentation parce que le gouvernement ferme les yeux sur la commercialisation de tous ces produits-là. Et donc, je pense que si la prise en charge est difficile de manière générale, il y a des problèmes que nous pouvons éviter.
De la prévention.
On peut éviter ou dont on peut réduire la fréquence. Et puis, il y a le problème de synergie dont on a parlé tout à l'heure. L'université fait des recherches, mais le gouvernement semble ne pas avoir confiance aux universitaires. Alors, ce n'est pas normal, alors que les propositions du développement, ça vient des universitaires ou des chercheurs, et quitte au gouvernement de les appliquer. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette, un fossé entre l'université et l'État, ici chez nous au Congo. Donc, voilà un peu ce que je peux dire au sujet du cancer.
Merci beaucoup, Olivier. On va terminer avec Gentil Homme, qui est à Kananga, avant de revenir à vous, à notre invité, pour la conclusion. Gentil Homme, vous êtes à Kananga.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, gentilhomme, vous avez suivi vos prédécesseurs qui ont proposé, par rapport à leurs préoccupations, beaucoup de solutions à apporter pour que la prise en charge soit efficace. Là, je parle de la prise en charge des cas de cancer. C'est vrai sous toutes ses formes, cancer de l'utérus, cancer de la peau, cancer du sang, bref, le cancer dans sa globalité. Alors vous avez la parole. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous soutenez les avis de vos prédécesseurs quand ils ont insisté travailler sur la sensibilisation de campagne de sensibilisation des masses par rapport à la maladie, d'une façon de prévenir, et aussi de vous demander, comme les autres, que le gouvernement puisse réellement peaufiner des stratégies de lutte contre la maladie, c'est-à-dire des stratégies techniques pour une prise en charge correcte.
Oui, monsieur le journaliste, j'avais moi une petite question à poser à notre invité, mais avant de la poser, je peux tout d'abord éclaircir mes idées. En 1994, à Tikajon, on avait le docteur Machina. C'était un docteur qui s'occupait des gens atteints de cancer. Il les soignait très bien là. Mais pour le moment, depuis son départ jusqu'alors, on n'a pas quelqu'un qui peut s'occuper de cette maladie-là. Mais j'avais une petite question à poser. Ici, à Kananga, pour ceux-là qui souffrent de la tuberculose, on les soigne gratuitement. Mais qu'en est-il de la maladie chronique, qui est le cancer, qui tue des millions de personnes, et l'État ne s'occupe pas de cette maladie-là pour amener les gens à être testés facilement? C'était la question que moi je voulais poser à notre invité. Je n'avais pas une idée à avancer par là.
Merci, parce que il s'agit là d'une question directe, nous la posons également à notre invité, Dr. Ingala.
D'accord.
Dr. Ingala, vous êtes avec nous?
Vous me suivez?
Oui, on vous suit, docteur.
D'accord. Je remercie mon débatteur avec pour la question qu'il vient de poser, qui est une question très importante. Le cancer représente au moins 6% de toutes les maladies qu'on peut diagnostiquer dans notre pays. C'est donc un problème de santé publique et son évolution est de type chronique. Mais pourquoi existe-t-il des programmes pour d'autres maladies qui ont le même profil que le cancer et non pas pour le cancer? Ça, c'est une question, je crois que, à mon niveau, je ne pourrais que déplorer le fait qu'il manque un programme national de lutte contre le cancer. Je souhaite que nous sommes entendus et que...
Si, parce que docteur,
une solution, c'est qu'il doit être à l'avant-plan. Je crois qu'il prend conscience de toutes les informations que nous sommes en train de donner aujourd'hui, tout ce que nous déplorons pour que finalement, il vaut mieux tard que jamais, qu'il y ait finalement un programme de lutte contre le cancer. C'est une situation, la situation que nous vivons ne peut être déplorée.
Voilà, donc vous soutenez les avis des uns et des autres qui proposent qu'il y ait des stratégies, parce que si nous courons derrière la montre afin que nous soyons réellement au rendez-vous de 2015 tel que le souhaite l'OMS, qu'on arrive quand même à mettre un accent sur cette maladie en proposant des stratégies, en profitant des stratégies, vous pensez comme les autres que l'une des stratégies c'est mettre sur pied ce programme qui pourrait aider tant soit peu à sensibiliser la population. Alors Patrick, vous avez...
Absolument, parce que bon, c'est un problème réel. Hein? Il y a des données qui montrent que c'est un problème de santé publique. Donc, à partir de ce moment-là, une décision doit être prise. Il faut un programme pour coordonner toutes les actions sur le terrain pour pouvoir définir la politique qu'il faut pour notre pays. Il faut absolument cela. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer outre cela. Non, c'est impossible.
Oui, alors au niveau de l'université, il n'y a pas également, j'imagine, parce que vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas peut-être si on vous a bien compris, qu'au niveau de l'université, on forme des généralistes, mais quand il s'agit des spécialités, ça devient un problème, surtout pour ce qui concerne le cas de cancer.
Oui, mais absolument, c'est une super spécialité qui ne se fait pas dans notre pays. L'État doit s'impliquer, c'est pas un individu qui peut se débrouiller par ses propres moyens pour aller suivre cette formation, alors que ce qu'il aura comme formation va profiter à tout le monde. Donc l'État doit s'impliquer, on ne doit pas croiser les bras.
Donc là, l'avait proposé à un auditeur tout à l'heure, il faut qu'on mette à la disposition de médecins des bourses.
Oui, mais absolument. Quand bien même on a acquis une telle formation à l'étranger, mais quand on rentre au pays, on a des difficultés pour pouvoir mieux prendre en charge les malades. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un plateau technique qu'il faut. On veut telle chose. Il n'y en a pas. Il y a tel médicament. Il n'y en a pas. Mais finalement... On n'aura pas étudié pour rien quand même.
Alors dans ces cas, les malades sont obligés d'être évacués, d'aller sous d'autres essieux, peut-être pour avoir des traitements plus efficaces.
Oui, mais même l'évacuation, ça pose problème. Ça demande de l'argent. Vous voulez quelqu'un qui doit se placer d'ici pour aller, par exemple, en Afrique du Sud ou bien en Inde ou bien dans un pays européen. Mais il doit avoir suffisamment de moyens. Hein? Vous connaissez le niveau social, le niveau de vie dans notre pays. Combien de familles ont la capacité de pouvoir débloquer comme ça 10 000 dollars ou plus pour assurer le déplacement de leurs membres de famille souffrant? C'est pas évident.
Voilà. Donc nous retenons une chose, docteur, que c'est vrai, c'est la prise en charge est très coûteuse, hein, le cas de cancer. Je crois que les autorités doivent s'impliquer et au besoin, si possible, mettre sur pied un programme ou des stratégies qui pourraient aider tant soit peu la population à accéder aux informations liées à la maladie. Question de prévenir et au besoin également mettre sur pied des techniques appropriées pouvoir aider les médecins, même spécialistes qui vont étudier à l'étranger, au retour au pays, qu'ils puissent être vraiment en mesure d'exercer, sur le terrain. Voilà, merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est par ici que nous allons nous séparer avec vous et on prend rendez-vous avec vous très prochainement. Nous disons également merci à Patrick, qui devait être en principe le dernier auditeur. Malheureusement, on n'a plus assez de temps pour lui accorder, ne plus qu'une minute. Ce n'est qu'une partie remise. Patrick, vous êtes à Lubumbashi. On reviendra à vous très prochainement. Merci également à vous tous, chers auditeurs, d'avoir participé à ce débat.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
Voilà, merci également à Sylvain Matundou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Tite Poutou et Pierrot et Lameji l'ont réalisé et J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Tenu la semaine dernière dans la ville de Lubumbashi d'une conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs miniers, les participants à ces assises ont relevé les déséquilibres entre l'exploitation minière et les recettes réalisées. À cet effet, il a été recommandé à l'issue de cette rencontre organisée par le ministère des Mines la centralisation de toutes les recettes. Parole aux auditeurs, on fait les débats demain dans un nouveau numéro avec comme question principale, que vous inspire cette recommandation? Inscrivez-vous déjà pour participer à ces débats. À très bientôt.